Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé en fait.
MJV, c'est vous qui représentez le système.
Il est 9h40 sur France Inter, soyez les bienvenus dans l'Instant M.
Vous êtes en direct, allez-y.
Hier, au ministère de la Culture, Françoise Nyssen a donné une conférence de presse pour annoncer le projet du gouvernement en matière d'audiovisuel public. Elle a dit, face aux patrons de France Télévisions, de Radio France, d'Arte, de France Média Monde, de l'INA et de France 5, qu'elle était fière d'entraîner, je cite, l'équipe de France de l'audiovisuel. Seulement voilà, même le très méfiant et très verrouillé Didier Deschamps, sélectionneur des Bleus, accepte de répondre aux questions des journalistes. Pas la ministre de la Culture et de la Communication. Dommage, l'Instant M avait une foule de questions. Eh ben, on vous les posera donc ce matin.
L'Instant M, Sonia de Villers, sur France Inter.
Et comme la ministre ne souhaite pas répondre, on a trouvé quelqu'un d'autre à qui poser des questions. Bonjour Frédéric Dumas.
Bonjour.
Vous êtes députée LREM, vous êtes coordinatrice du groupe de travail sur l'audiovisuel public. Vous avez remis il y a quelques jours, quelques heures, même c'est très très frais, un rapport de 300 pages sur lequel vous travaillez en groupe depuis des mois, maintenant des semaines. Vous avez pour cela visité chacune de ces entreprises, rencontré chacune de ces équipes pour élaborer justement toute une série de propositions. Nous aurons également dans quelques minutes au téléphone Stéphane Lebars, délégué général du syndicat du producteur des films d'animation, directement concerné par la suppression en hertzien de la chaîne France 4 qui, vous le savez, est une chaîne dédiée aux enfants et qui comporte énormément de dessins animés. Deux questions d'abord, Frédéric Dumas, avant de parler avec Stéphane Lebars. Le gouvernement a frappé très fort cet hiver, on s'en souvient, on en est tous sortis complètement traumatisés, en annonçant de très lourdes économies à réaliser rapidement dans l'audiovisuel public. Ensuite, vous avez commencé à travailler. Vous êtes venu notamment au micro de l'Instant M pour dire que non, il fallait absolument commencer par mettre sur pied un projet pour l'audiovisuel. Voilà, avant d'annoncer d'abord des coupes, c'est ce qui a été annoncé hier. Et en même temps, surprise, la ministre donne des axes et dit l'année prochaine. L'année prochaine, c'est long, hein. On vous fixera le montant des coupes budgétaires. Alors moi, ma question, c'est comment peut-on travailler dans ces conditions? Comment peut-on amorcer la transformation des entreprises, mettre en route des programmes dont parfois la fabrication prend des mois, voire des années, quand on ne sait pas de quel argent on disposera l'année prochaine?
Bah écoutez, effectivement, c'est difficile.
Oui.
Nous, effectivement, à l'automne, on avait, comme vous l'avez rappelé, tenu à vraiment reparler des missions, des offres, etc. On s'était battu pour ça pendant le rapport pour avis, pendant tout l'automne. Donc, on est évidemment ravis que cette partie-là soit reprise. Mais on avait aussi souhaité qu'elle aille jusqu'au bout. C'est-à-dire, on commençait sur les missions, le rôle du service public, son importance, le modèle qui était éventuellement modèle de demain. Et ensuite, évidemment, la deuxième partie, c'était le financement et la gouvernance. On a fait ce travail-là, nous. Hein. On a fait ce travail du début jusqu'à la fin, puisque vous avez raison, on doit avoir une idée.
Donc il y a quelque chose qui cloche quand même.
Notamment la confiance, c'est-à-dire retrouver une forme de confiance, savoir effectivement les moyens qui seront attribués.
Oui, parce qu'il y a autre chose qu'a annoncé la ministre, c'est-à-dire que dans une future loi en 2019, on va aussi réformer le mode de nomination des patrons de l'audiovisuel public. Donc non seulement nos patrons travaillent sans savoir de quel budget ils disposeront, mais en plus, ils ne savent pas quand et comment va s'achever leur mandat. C'est quand même extrêmement compliqué d'entamer de très profondes réformes dans ces conditions.
Nous, en fait, on a fait cette contribution, donc elle est portée par 6 députés,
hein, oui.
Sophie Maître, qui est du MoDem, Marie-Ange Magne, qui est rapporteur spécial au sein de la commission des finances sur le budget audiovisuel public, Raphaël Gérard, Pascal Bois, Sandrine Meursch, Pierre-Alain Raffan. On soutient une méthode.
Oui.
Pour nous, la transformation, c'est la méthode et le temps. Il y a une partie qui a été entendue, donc on est ravis. C'est vrai qu'on aurait souhaité que ça aille éventuellement jusqu'au bout. Après, c'est vrai... La seule chose sur la gouvernance, je suis un petit peu d'accord, c'est que si on était entré par l'angle de la gouvernance, c'était terminé, on n'aurait parlé que de ça.
D'accord.
Pour moi...
Que de la façon dont
voilà,
Emmanuel
façon,
Macron
voilà,
veut faire
exactement.
Nommer les
ça,
patrons
moi,
du
Moi, je me suis suffisamment battue contre
d'accord.
ça pour trouver que ce soit une bonne idée.
D'accord.
Par contre, de ne pas vouloir aborder
la question
de
l'argent.
De ne pas vouloir aborder... Parce qu'on est dans un écosystème.
Bah, bien sûr.
Donc ça ne touche pas seulement l'audiovisuel public.
Non.
On le démontre dans notre contribution. Parce qu'il y a quand même aussi des députés qui prennent la parole individuellement pour dire un certain nombre de choses sur la publicité, sur autre chose.
Bien
C'est-à-dire
sûr.
On a dit qu'il ne fallait pas en parler, mais y en a quand même qui en parlent. Donc en fait, c'est anxiogène pour tout le monde, puisque nous, on a milité pour que tous ces sujets soient abordés de manière globale, pour que chacun des acteurs puisse savoir.
Donc vous n'avez manifestement pas été complètement écouté, et le gouvernement, pour l'instant, dissocie la question du projet et la question de l'argent.
Franchement, il y a une méthode qui a été celle qu'a souhaité Emmanuel Macron, qui était effectivement, des discussions, il y a des débats, et à un moment donné, les débats sont tranchés, par le Premier ministre, et à ce moment-là, on se met, disons, en ordre de marche, j'allais dire.
Quand est-ce qu'il y a eu débat ?
Là, il n'y a pas eu débat, c'est-à-dire que cette contribution dont je vous parle, elle a été évidemment remise un petit peu plus tôt, parce qu'on a toujours dit qu'on estimait que ça serait un outil, une aide à la décision, et on fait la méthode aussi qui est celle du président de la République, et qui est celle, par exemple, de Jean-Michel Blanquer, pour qui j'ai énormément d'estime, qui est, on compare avec les exemples étrangers, et on prend, alors lui, il évoque des données scientifiques, les neurosciences et tout ça, et nous, on prend des données objectives. C'est ce qu'on a fait, par exemple, sur France 4. On a comparé avec les pays étrangers, et les données objectives, c'est effectivement les données de médiamétrie sur les usages.
Donc là, vous venez dire tout simplement...
Personne n'en a tenu compte.
On n'a pas tenu compte de vos recommandations, de votre rapport. On n'a pas débattu.
On n'a pas débattu. Je ne reproche pas, évidemment, de ne pas en tenir compte. Je reproche qu'on n'en a même pas discuté. D'ailleurs, on nous a même dit, c'est pas grave, vous inquiétez pas, cette contribution, elle viendra après les annonces du gouvernement, puisqu'on n'annoncera rien de précis, ni sur les économies.
Il y a
eu des choses très précises. Et on a eu un petit déjeuner avec le Premier ministre hier, il ne nous l'a pas dit non plus. Il l'a à peu près évoqué à la fin du petit déjeuner, mais il n'y avait plus de débat possible. Et personne n'a vraiment compris, parce qu'après, quand il y a eu les annonces, on fait travailler des commissions, on fait faire des rapports,
et puis après, on fait ce qu'on veut, quoi. En gros, c'est ça.
Disons que nous, franchement, ce qu'on a fait, je pense que c'est un travail énorme. D'ailleurs, moi, j'ai la ministre de la Culture qui m'a appelé dimanche matin pour me dire, voilà, c'est incroyable, ce qui a été fait, on va l'utiliser, etc. Mais bon.
Alors, supprimer France 4, c'est certainement faire des économies. Évidemment, faire des économies. Or, l'essentiel du budget de France 4 tient dans ce que France Télévisions investit chaque année dans l'animation française. Or, le dessin animé français, c'est le fer de lance de nos exportations audiovisuelles françaises. Il faut le savoir. C'est vraiment un savoir-faire français extrêmement important. Je vous fais écouter Angelo la débrouille.
Non mais c'est sérieux, j'ai vraiment été collée. Moi, Gladys, vous vous rendez compte?
C'est quoi le problème?
Ouais, Angelo est collée genre 12 fois par semaine.
Mais pas moi!
Stéphane Lebars est au téléphone avec nous, délégué général du syndicat du producteur des films d'animation. Bonjour.
Bonjour.
Alors, j'imagine que le syndicat, enfin je n'imagine pas, je le sais puisqu'on s'est entretenu hier par téléphone, est extrêmement inquiet des décisions qui sont prises par le gouvernement, à savoir supprimer France 4 et en faire une plateforme internet de consommation à la demande de programmes pour la jeunesse.
Oui, tout à fait, effectivement, ce qui domine aujourd'hui, c'est l'incompréhension et l'incrédulité. Le gouvernement abandonne avec cette décision brutale, non concertée, les moins de 12 ans en race campagne. Il faut quand même voir que dans le dossier de presse d'hier, je crois que dans les 30 pages, il n'y a pas une seule fois le mot enfant qui est écrit. Donc encore une fois, on a un gouvernement qui arbitre contre les enfants dans une réforme audiovisuelle. On se donne le temps de la réflexion sur France O, mais pour les enfants, eux ne la méritent pas.
Absolument, je précise pour nos auditeurs, c'est-à-dire qu'on a dit oulala, France O, c'est très sensible, c'est très politique, donc avant de supprimer France O, on va interroger les élus, voir ce qu'ils en pensent. Donc là, pour le coup, il y aura débat. Là, c'est en effet sans concertation. Ceci dit, on n'a pas dit on abandonne les enfants en race campagne, on a dit on leur fait une plateforme sur Internet de visionnage sécurisée et sans publicité.
Oui, enfin, il faut savoir, le SPFA a mené un sondage avec Opinionway le 30 mai et le 1er juin. Ce qui ressort de ce sondage, c'est que 82% des Français pensent qu'il est important que les enfants aient accès à une chaîne jeunesse gratuite et sans publicité. Mm-hmm. Et 76% sont contre la suppression de France 4, qui est sans publicité et destinée aux enfants jusqu'à 19h. Il faut savoir quand même que France 4, c'est 50% de la consommation de télévision, de France Télévisions par les enfants. Ouais. C'est 65% de la diffusion des programmes qui leur sont destinés sur France Télévisions. Et c'est 50% des commandes de séries d'animation de télévision française en 2018.
Alors, il est là l'enjeu, hein, Stéphane Lebars. C'est-à-dire c'est-à-dire 50% des achats de programmes produits en France. Est-ce que vous avez peur que si la nature de France 4 change, c'est-à-dire si c'est plus une chaîne hertzienne, mais si ça devient un site internet, s'il n'y a plus qu'un peu de dessins animés basculés sur France 2 le matin, sur France 3 en fin de journée, sur France 5 à la sortie de l'école, est-ce que vous avez peur que ces obligations d'investissement chutent et que ce soit toute la filière qui en pâtisse justement?
Je pense qu'avant de parler des investissements, il faut d'abord se préoccuper du public.
Oui.
Cette question, elle a été complètement laissée de côté. Le public, les enfants, qu'est-ce qu'ils veulent, quels sont leurs usages, et a été laissée complètement de côté. On confond volontairement dans le discours gouvernemental les adolescents et les jeunes adultes, les femmes 13-25 ans, avec les moins de 12 ans. Donc on nous dit les ados et les jeunes ont massivement immigré vers Internet.
C'est-à-dire vous voulez dire que quand on a 5 ans et qu'on regarde l'âne trop, on n'est pas sur Snapchat, c'est ça que vous voulez me dire?
Voilà. 90% de la consommation télé des enfants se fait sur le vieux poste de télévision et 80% en direct.
D'accord.
Le reste sur les écrans numériques, c'est essentiellement sur YouTube que se fait la consommation. Et donc il y a un vrai danger si on supprime effectivement France 4, de voir les enfants migrer vers les chaînes privées concurrentes ou migrer sur YouTube. Et je vous rappelle quand même que YouTube, c'est quand même un univers non sécurisé.
Absolument.
Ces derniers mois,
absolument. On en a parlé sur YouTube Kids, absolument.
Avec des dessins animés qui ont été détournés à des fins homophobes, pédophiles, racistes, etc. Et aujourd'hui, ce qu'on nous propose, c'est globalement, avec la suppression de France 4, compte tenu du poids de YouTube sur le numérique, c'est de précipiter effectivement les enfants français vers
d'autres écrans
américains,
voilà.
Avec tous les dangers que ça comporte.
Vers d'autres écrans.
Avant de parler effectivement des conséquences pour l'industrie qui sont bien réelles, parce que derrière, on commence à entendre effectivement un certain nombre de gens murmurer qu'il va falloir mettre moins d'argent dans l'animation française, puisqu'elle sera moins exposés, il y a d'abord une question du public.
Et alors, ensuite, je vais poser... Oui.
Pardon, il y a une question par rapport à la filière. La France a la chance d'avoir, elle a construit pendant 20 ans un champion national, numéro 1 européen, numéro 2 mondial dans le secteur de l'animation, leader des exportations individuelles françaises, plus 50% d'exportations en 2016 par rapport à 2015. On crée des emplois, on relocalise en France. Donc on a une industrie extrêmement dynamique, aidée par l'État. L'État a fait beaucoup pour construire cette industrie. Et de l'autre côté, l'autre main balaye la plateforme de diffusion qui est indispensable à l'équilibre et à l'exposition de cette...
Stéphane Lebars, je fais réagir tout de suite Frédéric Dumas. D'abord, la première chose qu'a dit Stéphane Lebars, c'est on confond les jeunes, les ados, les jeunes et les enfants. Vous êtes d'accord?
Ah mais totalement, c'est ça qui est dramatique. Depuis le début, il y a cette confusion. En fait, pourquoi nous pensons que cette décision n'est pas pertinente? D'abord, il y a deux priorités du président de la République, du gouvernement qui effectivement correspondait à cette chaîne enfant. La première, c'était l'éducation sensible, l'éducation aux médias, l'éveil, etc. Parce que effectivement, cette chaîne, c'est de l'animation et on va en reparler, puisque c'est quand même l'excellence et des filières de fabrication dans les régions.
Oui.
Mais c'était aussi des émissions Yetili pour la lecture, sur la science, il y a beaucoup de choses. Ça participait, cette éducation sensible et aux médias, dont on ne fait que parler. Mm-hmm. La deuxième chose, c'était aussi notre autre objectif, c'est de réduire les fractures. Réduire les fractures géographiques, culturelles, sociales, etc. Qu'est-ce qu'on fait en mettant effectivement la chaîne sur le numérique? Il y a tout un tas de Français qui ne pourront pas accéder, puisqu'on sait très bien que 50% sont encore sur le hertzien, 24% n'ont pas accès au numérique. Donc on ne peut pas réduire la fracture territoriale, et même la fracture, j'allais dire, numérique, sociale et culturelle, si effectivement on place la chaîne sur le numérique.
Alors moi, j'ai pas eu accès à votre rapport,
et la troisième chose,
votre rapport n'était pas pour la suppression de France 4?
Ben non, puisqu'on expliquait tout ça. Et ensuite, sur la méthode, les exemples étrangers. Tous les pays européens ont au moins une ou deux chaînes pour enfants, parce qu'il y a les préscolaires et les scolaires. Tous les pays qui ont réformé leur modèle, la BBC, etc., tous ont une chaîne pour enfants. Donc ça, on n'en tient pas compte. Et la deuxième chose, la seule chaîne que la BBC a basculée sur le numérique, c'était effectivement la chaîne adulte, jeune adulte.
C'est jeune adulte,
pas du
jeunesse,
enfant,
voilà.
BBC 3. 85% d'audience en moins. Les programmes The Voice, ils sont passés de 500 000 à 90 000. Je ne sais plus quel autre programme, de 800 000. Si on n'est pas fort sur les linéaires, et nous on disait, il faut renforcer l'offre linéaire de France 4.
80% d'audience en moins en basculant sur le numérique.
Bien sûr.
Non mais parce que hier, on a entendu une seule chose, Frédéric Dumas, dans cette conférence de presse. Je crois que j'ai noté la récurrence. On a entendu le mot BBC, 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 BBC. Je crois qu'on l'a entendu 9 fois.
Si on imite la BBC, on fait deux chaînes pour enfants. Donc sur le linéaire. Donc,
Évidemment, tout de suite BFM TV. TV porté par le groupe Altice Média a réagi. Si il n'y a plus de France 4, il y a un canal 14 qui se libère. Si jamais c'est pour mettre France Télé Info, France Info Télé, pardonnez-moi, sur ce canal 14, comme le laisse entendre la ministre de la Culture, on ne laissera pas faire, c'est de la distorsion de concurrence.
Écoutez, ça c'est un autre sujet, c'est-à-dire c'est une autre approche qu'on a dans notre rapport, dans cette contribution, puisque c'est une contribution, on n'a jamais dit que tout devrait être repris, mais au moins ça aide au débat et à la réflexion. Sur ce sujet de l'audiovisuel, on rentre toujours par silo, on rentre jamais en appréhendant l'ensemble de l'écosystème. Donc quand on prend ces décisions-là, ça touche d'autres.
Bah bien sûr, je dis pas immédiatement
qu'il faut le faire.
Il y a quatre chaînes d'infos en concurrence, donc il faut penser aux quatre en même temps.
Mais à un moment donné, il faut avoir un pilotage global pour que chacun puisse, vivre et survivre. Il y aura, bien sûr qu'il faut faire des arbitrages, mais les arbitrages, ils doivent arriver lorsqu'il y a eu une approche globale sur tous les sujets. Or là, effectivement, j'ai entendu aussi dire, on supprime les secteurs interdits à la télévision. Je dis, pourquoi pas?
Ça, vous parlez de publicité.
Oui, mais ça a été dit là. On dit toutes ces choses-là sans tenir compte de l'écosystème.
C'est ça.
Je pense qu'il y a des choses à bouger.
Parce qu'en face,
moi, je suis là pour transformer.
Évidemment, il y a des secteurs industriels qui veulent communiquer, d'autres qui veulent être protégés. Il y a des chaînes privées qui ont besoin de publicité, etc.
Il faut faire vivre tout le monde.
Vous confirmez que c'est par prudence politique vis-à-vis des lobbies ultramarins, après tout ce qui s'est passé en Guyane cette année, etc., qu'on ne supprime pas France O de la même manière qu'on décide brutalement de supprimer France 4?
Bon, d'abord, la méthode, il faut l'avoir pour tous les sujets, donc la méthode France O, il faut l'avoir pour France 4. Donc nous, notre appel, c'est à demander que France 4 revienne dans la concertation avec les entreprises et avec les Français, puisqu'on nous a dit qu'il fallait absolument avoir l'avis des Français. France 4, c'est pas normal qu'on ne demande pas l'avis non plus des entreprises. Mais sur France O, nous on a proposé ça dans notre rapport. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, le problème de France O, c'est que l'objectif, c'est, soi-disant, qu'il y ait une visibilité plus importante pour les ultramarins. Ce qu'il faut. Là, on se moque, moi, je trouve, du monde ultramarin. Et le devoir, c'est que sur les antennes, effectivement, nationales, il y ait plus de place pour les minorités, mais de manière attractive, visible, etc. C'est qu'à un moment donné, on intègre la société, les minorités. Donc nous, on a effectivement poussé à une réflexion sur France O. Et donc, pour cette raison-là, on trouve que c'est bien de le faire et de consulter, effectivement, pour prendre
une bonne
décision.
Alors, un dernier mot sur France 3, parce que c'est un très gros dossier. Là aussi, on annonce comme ça, du jour au lendemain, plus des programmes régionaux multipliés par 3. Alors, j'aimerais on nous a toujours dit, moi j'entends ça depuis que je suis journaliste média, c'est-à-dire depuis 20 ans, qu'il faut dégraisser France 3, que le mammouth c'est France 3. On a toujours entendu ça jeter en pâture n'importe comment, etc. Et là, d'un seul coup, on nous dit 3 fois plus de programmes régionaux. Alors, ma question, elle est la suivante. On sait très bien que la plupart des effectifs de France 3, ils sont attribués à l'information régionale. Est-ce que ça veut dire plus de programmes régionaux? Ça veut dire recruter du monde en région? Ça veut dire réinjecter encore plus d'argent en région pour faire des programmes, des magazines, du documentaire, etc. Et puis dans un an, nous annoncer qu'en fait, il va y avoir des coupes budgétaires énormes sur France 3?
Là encore, dans notre contribution, on aborde ce problème de manière extrêmement précise. La première chose, c'est que on parle de la spécificité des antennes et de la complémentarité. D'où le fait d'ailleurs que si France 4 était, si les programmes de France 4 étaient, entre guillemets, je dis ce mot un peu trivial, balancés sur les autres chaînes, on irait contre la spécificité des chaînes, puisque effectivement, on ne toucherait pas des publics spécifiques. Sur France 3, nous, on a poussé effectivement la proximité. Mais on a dit, faites très attention au curseur. Puisque effectivement, l'idée c'est pas d'inverser le modèle, ça serait une catastrophe à la fois sur le plan évidemment budgétaire et puis aussi les audiences.
En termes d'audience,
vous savez tous que les audiences, on décrète pas des audiences en deux secondes. Donc effectivement, qu'il y ait plus d'informations, c'est-à-dire qu'on passe de 2 heures à 6 heures, ça nous paraît pas anormal. Sauf que effectivement, dans l'expression, souvent c'est présenté comme une espèce d'inversion du modèle. Ce que ce n'est pas. Donc nous, effectivement, on était pour pousser un petit peu plus la proximité régionale, mais sans plus, et faire très attention au curseur. Et la deuxième chose, quand vous parlez de la vraie transformation, parce que nous, on est pour la transformation, on n'a pas dit qu'on voulait que rien ne change. Effectivement, la vraie transformation, c'est la transformation sociale. C'est comment on modifie effectivement l'organisation du travail et le temps de travail pour que le modèle de demain, qui aura été partagé avec les entreprises, parce qu'à un moment donné, il faut comprendre une transformation. Et nous, on prend plutôt la RTBF comme modèle. La RTBF.
Que la BBC.
Oui.
Oh, bah voilà. Il existe autre chose que la BBC.
De transformation.
La RTBF.
Parce qu'ils ont pris le temps ouais. et la méthode de la transformation. Et nous, on finit par ça, hein, la contribution, c'est que le temps et la méthode sont aussi importantes.
Bien, voilà. On vous a manifestement pas entendu de A à Z. Merci Frédéric Dumas pour votre franchise et pour votre éclairage. On en avait besoin, on n'a pas pu poser de questions à la ministre. Merci beaucoup, c'est la fin de l'émission. Bonjour Dorothée Barba.
Bonjour Sonia, bonjour à tous.